Devenir par Synapse, pour devenir la meilleure version de soi-même.
Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Devenir. Ici, nous explorons des sujets qui nous passionnent, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Alors mets-toi à l'aise, augmente le volume et sois prêt à avoir l'esprit soufflé.
Bienvenue au Synapse Podcast. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'ai le privilège d'avoir, qui m'inspire beaucoup, qui est Nathalie, qui est la fondatrice de WorkFriendly. C'est une femme qui, pour moi, elle est une artiste à la base. Elle a vraiment quelque chose d'intuitif, de créatif, et qui est aussi devenue une entrepreneuse et qui est aussi quelqu'un qui a conquéri sa liberté et qui a créé un projet qui, moi, personnellement, m'inspire beaucoup. D'ailleurs, on va faire des choses ensemble, c'est sûr, et qui va aujourd'hui un petit peu nous raconter son histoire. Bienvenue, Nathalie.
Merci.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens? C'est quoi tes origines?
D'où je viens? Alors déjà, j'ai un petit peu de parcours, parce que j'approche la cinquantaine. Un peu triste, mais c'est comme ça. C'est une première phase de vie qui est assez sympa, puisque je viens d'un milieu assez simple, hein. Des parents, mon papa se qualifiait de prolo. Et donc, finalement, à un moment donné dans mon parcours, une rencontre avec l'architecture en fin de terminale, une bifurcation très rapide. C'est la première fois, je pense, que j'ai suivi mon intuition. J'ai rencontré un jeune homme qui venait présenter son parcours et du jour au lendemain, je suis partie, je suis rentrée à l'école d'architecture de Grenoble et là, j'ai découvert une autre façon de concevoir. Voilà, j'ai appris à concevoir des choses. Tout type de choses, des espaces, des objets, puisque après j'ai fait un parcours de designer également. Et puis très rapidement, en fait, j'avais envie de me tester, de voir si mes idées étaient valables, et pas que aux yeux des professeurs, qui étaient quand même un cadre encore un peu très, très rigide, très hiérarchique. J'avais envie d'aller voir dans la vraie vie ce qui se passait. Donc, j'ai très rapidement, à 21 ans, commencé à travailler. Je faisais des vitrines, ce qu'on appelle étalagiste. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitrines avec du coup un formidable apprentissage de la créativité quand il faut faire beaucoup, beaucoup de décors, de choses comme ça. Donc, une très belle école de la créativité et puis une mise en vitrine. C'est-à-dire qu'on te met en vitrine, tu deviens d'un coup exposé. Donc, c'était fabuleux pour moi parce que hyper flippant tout le temps. Et en même temps, voilà, courageux. C'est-à-dire que j'allais chercher et puiser mes ressources à chaque fois que je montais une vitrine et j'en faisais à peu près 6 par mois, donc c'était énorme, sur des thématiques littéraires en plus, donc voilà, j'allais chercher tout ce que j'étais pas. C'est voir des parents qui n'ont pas du tout qui n'ont pas apporté un cadre de culturel ou littéraire fort. Donc, je suis allée me confronter à tout ce qui, je pense, m'a manqué, tout ce avec quoi je n'étais pas à l'aise. Des gens intello, la directrice de la librairie, enfin voilà, avec qui j'avais à 21 ans des temps de travail pour trouver des thèmes. Enfin voilà, après la réalisation, je faisais. Donc, un formidable apprentissage. Et puis ensuite, j'ai eu envie de monter une première boîte à 25 ans avec une amie. Première entreprise qui s'appelait Acrobat. Et puis, 4 ans d'expérience absolument géniale parce que là, avec cette amie, on y allait avec courage, avec audace, et puis on s'est fait plaisir, on a appris plein de choses. Moi j'ai un souvenir vraiment chouette de ce moment-là. Et puis nos vies moi j'avais 28, quelque chose comme ça. Nos vies ont commencé, je crois que c'est ça, hein, je réfléchis. Elle avait envie d'avoir des enfants, moi je pas spécialement. Et puis un jour je saisis une opportunité, quelqu'un me dit. Oui, chez Capgemini, on est là pour recruter des profils un peu atypiques. Je dis, ça m'étonnerait beaucoup. À mon avis, vous recrutez toujours les mêmes gens, très cartésiens, ingénieurs. Et elle me dit, c'était la directrice RH qui est devenue une amie, mais qui n'est plus chez Capgemini maintenant. Elle me dit, envoie-nous un de tes CV. De toute façon, c'est des choses qu'on fait à l'aveugle. Donc, je fais comme ça. J'envoie un CV un jour, puisque j'étais dans cette phase un peu de transition. En me disant, et que toute expérience est bonne à prendre, et surtout une expérience de grosse entreprise. Et ils m'ont recrutée pour profil atypique, effectivement. Ils m'ont recrutée pour m'occuper à l'époque de l'agence web, parce qu'on était en 2001, de Capgemini. Alors, je me suis aperçue assez vite que je n'étais pas très, très bonne en management et qu'il y avait plein de choses chez Cap qui m'intéressaient énormément. Et donc, j'y suis restée 8 ans. Et là, j'ai appris énormément de choses. La compréhension de l'organisation d'une entreprise, les pouvoirs en puissance, comment on gère un gros client. Qu'est-ce que c'est qu'un gros client? qu'est-ce qu'on attend de nous? J'ai vraiment appris énormément avec des gens de grande qualité. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes plutôt. Alors, j'ai choisi une activité au sein de Capgemini qui était très particulière et qui faisait le lien entre finalement ce qu'était cette entreprise plutôt typée SS2I, donc informatique, et moi ce que j'étais, architecte et designer à l'origine. Donc c'était une activité de conseil où on venait créer autour des personnes, des groupes que l'on recevait pendant 3 jours, tout un environnement qui faciliterait le partage de connaissances, la prise de décision et l'action derrière. Donc là, j'ai trouvé dans ce lieu, au sein d'une entreprise, cette première incarnation, cette première expérience que le lieu avait en entreprise, un fort impact sur nos postures, sur notre façon de communiquer, sur l'efficience qu'on pouvait avoir et l'atteinte des objectifs. Et donc, bon, j'ai navigué là-dedans pendant 8 ans avec grand bonheur. Et puis après, j'ai eu envie de partir. Je rejoins une petite structure en innovation, 4 ans, avec quelqu'un aussi d'extra, François. Et puis, une rencontre un jour sur un événement. On avait la chance de faire avec cette petite structure les journées de l'innovation pour un grand groupe qui s'appelle le groupe SEB, et pour faire ces événements qui duraient aussi 3 jours. Eh bien, on avait une entreprise qui s'appelle Insight Outside, et donc c'est là où j'ai rencontré Frédéric. Et Frédéric Rochex, on s'est connecté tout de suite. Et voilà, et rapidement, au bout de 2 ans, on s'est dit, parce qu'on a fait des événements ensemble, on s'est calibré, on s'est ajusté, et on s'est dit, ça serait quand même bien sympa qu'on bosse ensemble. Et lui, je crois qu'il a compris à travers les expériences qu'on a eues, comment l'impact, comment l'environnement physique avait un impact sur les gens. Et lui, dans ses événements, c'était un élément clé aussi, qui était important. Et à quoi servaient ces événements? Donc, la version travail est importante. Le positionnement qu'on a, work-friendly, c'est vraiment d'être autour du temps de travail et de son efficience. Enfin, voilà. Après, aujourd'hui, on a un petit peu... donc, ça fait 9 ans maintenant.
Alors, je te coupe ici pour qu'on regarde un petit peu. Il y a un fil conducteur qui m'inspire pas mal. C'est dès 18 ans, l'intuition pour aller faire archi design ensuite, elle vient d'un modèle de quelqu'un qui t'inspire aussi à prendre ses décisions et de s'écouter à l'intérieur. C'est quelque chose déjà que peu de gens font, on va dire, à cet âge-là, en tout cas. Après, il y a cet ami aussi qui, j'imagine, est une personne clé pour fonder Acrobat et commencer la première expérience entrepreneuriale. Et ensuite, Fred aussi, à ce moment de switch entre Capgemini et Workfriendly. Donc, on voit le rôle de l'humain, clairement, tout au long de la trajectoire pour les décisions. Qu'est-ce qui, à 18 ans en général, la plupart des gens, ils n'arrivent pas à suivre vraiment, à s'écouter à l'intérieur. En tout cas, ils ont peur, ils ont besoin d'un job, ils suivent. Qu'est-ce qui était différent chez toi? Ça a été l'inspiration de cette personne qui t'a donné ce courage, ou d'où c'est venu, on va dire, cette...
T'as dit ils ont peur, mais je pense que c'est la peur, moi, qui m'a fait, au contraire, fuir les sentiers battus. J'avais et une formidable envie de liberté. Et peur de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien. À la maison, donc mon papa disait qu'il était prolo, mais enfin il était quand même fonctionnaire. Et puis chez nous, c'est une grande lignée de fonctionnaires. Et voilà, il fallait faire les IRA, les instituts administratifs, des trucs comme ça. Et puis, j'étais partie là-dedans. Et en fait, c'était tous ces... ce que tu as dit, l'humain, tous ces hommes et ces femmes que j'ai rencontrés à un moment donné qui me permettent de basculer sont des révélateurs, des trucs qui font que clac, ok, je switch. Et je switch, c'est le bon moment, je suis là, ok, j'ai peur de le faire, mais j'ai encore plus peur de ne pas le faire. Donc,
ouais. C'est à la fois la douleur d'être dans le sentier battu, mais aussi l'envie de liberté, de faire
voilà,
quelque chose.
Exactement. Alors, je dis, bon, bah, ok, allez, let's go, tu y vas. Et puis, voilà.
Et avec ton ami à 25 ans, quand même, c'est aussi très jeune pour se lancer dans l'entrepreneuriat pendant 4 ans avec Acrobat. Ça s'est passé comment, le début, le moment de décider de se lancer ?
Eh ben, je me souviens plus trop du moment où on a décidé de monter cette boîte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est avant tout une super aventure d'amitié. C'est le souhait de, je pense, toutes les deux, d'apprendre. Alors, je crois que... Leïla avait plus de bouteilles que moi, ça c'est sûr et certain. Et vraiment, voilà, on avait chacun notre rôle, c'était plutôt pas mal, je pense. Et puis, je pense qu'on n'aurait pas pu continuer longtemps parce que on était jeunes. Mais voilà, je sais même pas je sais pas si c'est pas un soir autour d'un verre qu'on s'est dit à monter une boîte, quoi. C'est fort possible.
Et t'as eu peur à l'époque, t'avais un job au niveau financier, de pas avoir de revenus ou quelque chose comme
ça? À l'époque, j'étais encore en école d'archi et moi, j'étais, comme je te disais, je faisais des vitrines, j'étais indépendante, c'est-à-dire que j'avais un statut d'indépendante depuis l'âge de 21 ans. Ouais, donc au final, c'est quelque chose qui est inscrit en moi. Enfin, j'ai jamais eu cette. C'est toujours le moteur. C'est la liberté, et la liberté, c'est finalement, c'est plus avoir peur, quoi. Mais enfin, c'est ce moteur qui est encore là aujourd'hui, hein, tout le temps.
Tu as toujours eu, en fait, ce côté de commercial, d'aller chercher tes propres clients, tes propres revenus. Après, tu es parti à Capgemini un peu pour voir les gros clients, pour voir le monde business. Mais en gros, tu as toujours été un peu une indépendante, en fait. Oui. Ouais.
Commercial, je ne sais pas si je suis une bonne commerciale au sens... Par contre, au sens, par exemple, tu vois, si je dois vendre un objet, si ça fait sens, oui, je sais faire. Super bien. Donc, en fait, il faut que je pense que je sais bien expliquer. Donc, du coup, vendre, puisque vendre, c'est pas à un moment donné, c'est être juste, c'est être vrai. C'est je sais bien expliquer qu'est-ce que l'on va faire, ce qu'on peut en retirer, quels sont les bénéfices attendus. Voilà. Y compris hein, quand un objet, si c'est un objet et qu'il fait sens, qu'il sert à quelque chose. Donc, non, c'est vrai que j'ai jamais trop. J'ai eu la chance, vraiment. Alors, on dit souvent qu'on n'a pas de chance, mais qu'on. J'ai. peut-être d'avoir une forme je suis très convaincante, en fait, je pense. Peut-être plutôt.
Et dans cette transition Capgemini Work Friendly, alors c'est les gens qui nous écoutent souvent, ils sont encore à Capgemini, ils sont encore dans ces structures et ils ont vraiment envie de monter leur Work Friendly. Ça a été quoi les difficultés, les peurs, comment est-ce que ça a été cette transition? Souvent les gens ils ont peur, bah ils gagnent bien leur vie, donc ils ont un niveau de vie, il faut baisser ce niveau de vie pour devenir entrepreneur, il faut prendre des risques, parfois il y a le chômage, enfin ça a été comment pour toi?
Alors en fait ça s'est passé tu as raison. C'est-à-dire que peut-être dans mon imaginaire c'est passé comme ça, mais en fait il y a eu une phase intermédiaire. Il y a eu celle de l'association avec François qui a duré 4 ans, où du coup j'étais quand même salariée, tu vois, pourtant dans une plus petite structure. Et puis à un moment donné j'ai eu besoin de reprendre cette liberté, donc de remonter une structure avec des gens qui me plaisaient, Fred et voilà. J'ai toujours aimé quand même l'aventure un peu collective, parce que les rencontres, c'est le révélateur de finalement de ça, de C'est parce que tu rencontres quelqu'un, parce qu'il se passe quelque chose, que tac, tu... Bon, et puis que c'est sur ton chemin, que c'est en cohérence, parce qu'en fait, on voit que le parcours, même si je viens d'Archi, que je suis passée chez Cap, machin, il y a une grande cohérence dans tout ça. Au final, la lecture, elle se fait bien. Mais en même temps, ce sont les personnes. Et puis, je pense que tu es prêt à te lancer. Alors, quand j'ai quitté François, donc cette entreprise dans laquelle j'étais restée 4 ans, qui était toute petite, hein, on était 3-4. Mais déjà, on travaillait pour des gros, pour des Michelin, pour des Seb, tout en étant tout petit. Donc, on avait déjà cette vraie liberté d'action. Quand on est petit, on est agile. Ça, c'est juste génialissime par rapport à un Capgemini où tu as des moyens, mais t'es quand même... Tu bouges difficilement. Ouais. Et c'est ce qui m'a fait partir au bout d'un moment, parce que j'avais fait un peu le tour. Mais donc, quand j'ai quitté François, il y a à un moment donné, c'était l'année 2012, il y a ce moment un peu particulier où d'abord, hein, tu quittes quelqu'un avec qui t'a fait confiance. Donc déjà, tu t'en vas. Tu lui dis, je vais me remonter ma propre structure. Donc, tu ne veux pas le mettre en porte-à-faux ou le mettre mal dans son activité. Mais en même temps, tu reprends ta liberté. Et puis, toi, tu prends une vraie liberté qui est de dire, du coup, du jour au lendemain, j'ai plus ce salaire conséquent qui tombe sur mon... Mais il va falloir que j'aille le chercher. Et puis, c'est plutôt pas mal fait. Hein, c'est-à-dire qu'on a un tout petit matelas de X mille dizaines de milliers d'euros qu'on te donne pour te lancer. Et puis, mais en même temps, tu sais très bien que c'est éphémère, que de toute façon, tu n'as pas le temps de réfléchir, il faut y aller. Donc, il y a une forme un peu d'engagement total. Et un peu et assez décérébré à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop réfléchir parce que engagement total. Après, moi, j'ai eu la même année un événement très dur pour moi parce que j'ai monté l'entreprise en août 2012 et fin octobre, le 27, donc c'est bientôt l'anniversaire. Ma fille a eu un grave accident. Elle avait 6 ans à l'époque. Et c'était ça a été un tsunami très... j'ai été dévastée. Elle s'en est sortie, mais en même temps, ça a été très, très dur. Et ça, c'était difficile parce que, tu dois mettre toute ton énergie. Cet engagement, il est total. Et d'un coup, raz-de-marée, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui vient te happer. Et finalement, tu as un peu deux choix. Soit te laisser submerger et te noyer. Soit te dire que ce moment-là où tu as monté cette boîte, finalement, ce n'est pas là pour rien non plus. Et que c'est un peu ta bouée. Donc, même si ce n'est pas ce que tu avais prévu, c'est ça aussi la grande leçon de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a beau faire des plans sur la comète, il se passe jamais, ça se passe jamais comme on a prévu. Eh bien, tu vas t'accrocher à cette bouée et tu vas flotter et petit à petit, la tempête, elle va s'arrêter et que ça va redevenir calme et que voilà.
Ouais, c'est un cycle constant de prise et victoire.
Je dis des choses que tout le monde sait.
J'aime beaucoup quand tu dis, c'est l'engagement total et décérébré, ça montre cette il n'y a pas d'entrepreneuriat à mi-temps. Enfin, il faut passer à l'action, il faut se lancer. En même temps, on peut aussi planifier un petit peu cette transition et quoi, chacun trouve son chemin. Et toi, ton chemin, ça n'a pas été de quitter directement Capgemini et monter ta structure. Il y a eu une période intermédiaire où tu as fait une plus petite structure. Clairement, pour toi, la motivation, c'était l'agilité, la liberté d'action, de pouvoir. C'est ça qui t'a fait progressivement te lancer vers WorkFriendly. Et dans ces 9 ans de WorkFriendly, en gros, qu'est-ce que tu as appris, toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien sûr, la liberté, mais qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, l'entrepreneuriat? Est-ce que ça valait le coup?
Oui. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Tout, mais à titre très personnel. C'est-à-dire que c'est avant tout un cheminement, quoi. Je crois que c'est... Bon, en plus, moi, j'arrive à 9 ans, là. Donc, je suis en train d'accoucher d'un autre truc. Et j'en suis vraiment ravie. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. J'arrivais à la fin de ces 9 ans. Enfin, voilà, je sentais que là, ça allait... voilà, j'allais... j'allais accoucher de quelque chose. Qu'est-ce que j'allais faire de ce truc derrière? Est-ce que j'avais envie de continuer ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a toujours des doutes, des épuisements. On met des grosses énergies. En plus, dans les 9 ans, il y a des moments où... comme je le disais, ça ne se passe pas comme prévu. On embauche des gens et puis finalement, ils s'en vont. Et puis finalement, ça se passe bien et puis ça ne se passe pas bien. Donc voilà, ça, c'est le quotidien. Mais ce quotidien, il est très sollicitant pour nous qui devons à un moment donné décider, puisqu'un entrepreneur, voilà, un chef d'entreprise, il ne fait que ça, décider. Il n'y a que lui, de toute façon, seul. Mais il a beau avoir du conseil, des associés, des choses comme ça, il n'y en a qu'un seul à la fin qui décide. Donc voilà, et puis moi j'avais des preuves à faire pour moi. Et je suis toujours un peu en train de régler ça, hein. Mais là ça y est, ça commence à y voir en clair.
c'est marrant que tu parles d'accouchement. Nous chez Synapse, on fait du coaching et donc on cherche des gens qui sont à des moments clés pour les accompagner dans leur transformation. Et on s'est rencontrés un peu à ce moment de l'accouchement. Et du coup, tu as commencé un processus de coaching que tu n'avais pas encore expérimenté de cette manière. Qu'est-ce que tu dirais que le coaching t'a apporté à toi? Je sais que tu en fais maintenant, on a fini notre processus, ça fait un moment, et tu continues à en faire dans d'autres domaines. Donc clairement, ça c'est resté en tout cas. Comment t'expliquerais à quelqu'un comme toi qui à l'époque ne connaissait pas le coaching, ce que c'est, ce que ça t'a apporté toi d'en faire?
Alors, tu te souviens comme j'ai été... frileuse en fait, en me disant, bon, moi en venant de chez Capgemini, je connaissais beaucoup de méthodos, de machin, enfin tu vois, j'avais beaucoup travaillé avec tous ces trucs là, puis je me suis dit, bon allez, on va me resservir encore des méthodologies, enfin trop d'outils, j'avais pas envie de ça. Et puis après j'ai décidé que c'était ok, et du coup je t'ai fait vraiment confiance. Donc je t'ai vraiment donné, je me suis livrée, c'est-à-dire que j'ai utilisé ce moment-là pour aussi moi me poser sur la table des choses que je n'arrivais plus à voir. Donc le fait de les poser ensemble, toi tu me questionnais, moi j'arrivais à les poser, puis on les regardait, et du coup on pouvait les traiter, on pouvait leur donner une fonction, un sens, un truc. Et donc moi ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. Et aussi un truc qui est important, c'est de m'appuyer sur les autres, chose que je ne faisais pas du tout. Et je pense que à travers, pourtant j'avais des associés, tout ça, mais finalement, et les expériences, les salariés, tout ça, je me suis assez rarement appuyée. Enfin voilà, il y a une forme de solitude assez forte. Et en fait, je crois que c'est pas la solution, mais la vérité, elle est dans le fait que oui, on est seul, mais il faut toujours inclure l'autre, s'appuyer sur les autres, avoir le regard des autres. Voilà. Il ne faut jamais être isolé. On est seul, mais on n'est pas isolé. Il faut rester connecté fortement à tous ceux qui sont autour de nous et qui peuvent nous aider. Donc, coaching, associés, clients, avoir vraiment cette... et vraiment chercher amis, famille... ne pas s'isoler. Et parfois, moi, j'ai pu m'isoler. Et du coup, ça, c'est souvent ce qui a été dans mes périodes où j'étais un peu en mode bulldozer parce qu'il fallait absolument délivrer des choses. Du coup, je m'isolais totalement parce que il fallait que je délivre, il fallait que, voilà, il y avait un gros challenge pour moi. Évidemment, pour le client, parce que moi, j'ai un côté très... faut que ce soit parfait. Ça vient de mon enfance. Et donc du coup je me mettais en mode bulldozer, donc je m'isole total, je coupe. Or les liens, les autres, ils nous permettent de retrouver du sens, de la respiration, de l'énergie. Il faut jamais se perdre ça, parce que c'est quand même je pense que tous ces temps là demandent énormément d'énergie, mais on procure aussi énormément si on sait bien.
C'est vrai que comme dirigeant, comme entrepreneur, la tendance à s'isoler, c'est un truc qu'on expérience tous, hein, moi inclus, et que vraiment chez Synapse, on aide les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et on le fait à travers du coaching, on le fait à travers des masterminds. On vient de lancer maintenant un mastermind, par exemple. Ces espaces, comme tu dis, qui te permettent de lutter contre cet isolement, on va dire, même dans les moments de grosse pression opérationnelle ou stress financier ou que ce soit, et de garder cette connexion à l'autre, de garder un regard externe. Quoi. Comme tu disais, on met les choses sur la table, on regarde ensemble, et à partir de là, c'est de l'intelligence émotionnelle, en fait. L'intelligence émotionnelle, comme définit Daniel Goleman, c'est la capacité de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, ses émotions, ses besoins, et pouvoir être aligné avec ça, mais aussi de sentir ceux des autres et l'environnement autour. Quoi.
Mais c'est vrai que quand on est dans des phases un peu complexes dans l'entreprise, on a le sentiment que s'isoler nous permettra d'aller plus vite, la fameuse phrase, mais c'est faux. Et c'est surtout que, OK, ensemble, on va plus loin, mais surtout ensemble, on peut avoir plus de ressources. Et la ressource, c'est ça, hein, c'est cette capacité à être en énergie. Et donc, même si on a des moments où on a l'impression de pas avoir le temps, en fait, il faut vraiment le trouver. Moi, c'est vraiment des moments où, quand j'avais plus le temps, c'était horrible. Là, pour le coup, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Et c'est là où, du coup, ça re-questionne. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que, donc, si on ne veut pas perdre ce qui est la quintessence de cette liberté, il ne faut pas qu'on soit prisonnier d'un autre truc qui soit, voilà, il faut qu'on soit quand même libre d'aller chercher des ressources auprès des autres, auprès d'écoute. Si on ne peut pas aller rencontrer d'autres personnes, aujourd'hui, effectivement, via des podcasts, il y a énormément de choses fabuleuses sur le net en termes de développement personnel, en termes de... Voilà, qui en tout cas... Et puis aussi, il y a de temps en temps, ouvrir un truc et se dire, OK, allez, qu'est-ce qu'on me dit là? Et n'importe quoi, un bouquin, un YouTube, un machin, écouter les messages qu'on nous envoie. Il y en a beaucoup. Et cela, si on reste aussi à l'écoute de tout ça, donc ça veut dire connecté à son intuition, connecté à son cœur, ben voilà, ça permet aussi d'être plus juste et de vivre pleinement en fait toute l'expérience positive comme parfois plus difficile qu'on vit dans ces moments-là.
Comment tu fais, toi, pour justement maintenir cette connexion à ton cœur et garder ce temps de ne pas être dans le rush et garder ce temps pour lire, que ce soit des choses pour se développer ou juste pour le plaisir. Parce que les gens qui nous écoutent, souvent, ils n'ont pas le temps. Justement, ils sont justement dans ce moment où ils sentent qu'ils ont vraiment pas de temps. Pas pour faire le mastermind où on reste des dizaines de jours dans des endroits magnifiques ou même le coaching individuel qu'on a fait ensemble. On a pris 12 fois 2 heures ensemble chaque semaine pour te travailler. C'est des choses que certaines personnes pensent, c'est impossible, j'ai pas ce temps-là. Et du coup, même un e-learning ou un podcast, parfois, pour eux, ils n'arrivent pas. Quoi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
Alors, moi, je pense que dans le coaching, ce temps-là de connexion, le face-à-face, le travail qu'on va faire tant dans le physique, parce que il y a toute la gestuelle, il y a tout. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui est toujours debout, donc dans le mouvement. Donc, ce temps-là, il est super bénéfique. Donc, il faut se l'accorder, ces 2 heures. Effectivement, je me suis dit, waouh, ça va être lourd. Ben non, en fait, c'est léger. Donc, ça, c'est vraiment... Et c'est léger par la présence. Tout ce qui est e-learning, toutes ces choses-là, moi, je suis moins consommatrice de ce genre de choses. Par contre, je roule beaucoup. Et alors, particulièrement avant le Covid,
décapotable.
Ça, c'est mon petit plaisir. De temps en temps, je m'écoute et en rentrant de Valence, au lieu de passer par l'autoroute, je passe par le Vercors. Donc là, je peux décapoter. Là, je peux me reconnecter à un truc un peu. Mais du coup, comme je roule beaucoup, eh ben, plutôt que d'écouter la radio, les trucs comme ça, où on entend tout le temps les mêmes choses, bah, du coup, j'écoute des podcasts, des bouquins, énormément. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, beaucoup écouté, finalement suivi... découvert des auteurs, des Lise Bourdeau, des choses comme ça. On commence à écouter, à découvrir je crois que c'était à... Je pense que c'est même pas... C'est il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, je ne sais pas dire, mais tu vois, les cinq blessures qui nous constituent. Donc, tu commences par écouter des choses comme ça, puis après, tu creuses. Après, moi, je suis une boulimique de bouquins que je ne lis pas tous, mais que je lis assez en travers, en fait, un peu la quintessence de ce qu'ils sont. Alors, des fois, ça m'attriste un peu de ne pas les lire, de ne pas prendre le temps, parce que rien que se poser, prendre le temps de vraiment lire un bouquin, donc tout ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de livres qui sont des points de vue.
J'aime bien, à la fin du podcast, toujours demander à chacune des personnes un petit peu leur challenge actuel ou qu'est-ce qui... Moi, je sais que depuis... Ça fait un moment qu'on a fini le processus de coaching, mais que... Tu es beaucoup plus entouré maintenant. Tu as toujours eu Fred là comme associé, mais qui était moins dans l'opérationnel. Et là, tu m'as parlé de trois personnes qui sont avec toi. Donc, clairement, il y a une communauté au centre. Ça doit être très différent aussi de là où tu étais il y a un an. Mais c'est quoi ton challenge aujourd'hui? C'est quoi le prochain obstacle à surmonter pour toi? Et comment tu vas t'y prendre pour grandir encore, quoi? Même si, bien sûr, ton business, il est là depuis un moment et il a une certaine stabilité. Mais qu'est-ce que c'est pour toi, le futur?
Le challenge, il est créer vraiment un modèle d'entreprise qui soit tous les mots qui me viennent font référence à quelque chose d'existant, donc quand je veux dire hors des sentiers battus, mais en fait non, c'est qui me correspondent. C'est-à-dire un modèle d'entreprise, d'une entreprise qui est créée et gérée par une femme, donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait refaire un podcast dessus, hein, parce qu'on n'y met pas, moi je n'y mets pas plein de choses derrière, mais j'y mets quand même, on est assez différents, et puis je veux que les choses, elles soient, voilà, j'ai envie de les exprimer. Et puis, une entreprise, non pas qui grossit par, tu vois, je te souviens de ce fameux dessin que je t'ai fait, hein, qui est important, donc de la cellule, et puis le noyau, et puis la cellule, et puis soit tu fais grossir la cellule, et puis tu deviens énorme, soit tu multiplies les cellules, et ça c'est la vie. Et donc, du coup, c'est vraiment d'imaginer un modèle d'entreprise. Il y a déjà des choses existantes, hein, je ne dis pas que j'ai la... Mais enfin, voilà, de le mettre en œuvre, de le rendre opérationnel, de le tester. Et voilà, je pense qu'on est à la croisée aujourd'hui de changements un peu... il y a des changements radicaux qui s'opèrent. Il y a des très gros... Il y a des tout petits, il y a beaucoup de gens qui quittent leur travail. Voilà. Comment on sait créer des entreprises autour de ça? Voilà, donc on est plutôt sur des modèles de gouvernance, des nouveaux modèles d'entreprise. Ça, c'est le challenge. Et à titre perso, le challenge, c'est continuer à prendre ma place plutôt au sein d'une équipe, puisque j'étais quand même solitaire, et voilà, de prendre ma place au sein d'une équipe, de pouvoir l'accompagner, lui donner le cap. C'est le challenge.
J'ai adoré ta réponse, parce que vraiment, en tant qu'entrepreneur moi-même, avoir le modèle de l'entreprise qui nous correspond, c'est ça qui est important. Donc, par exemple, l'entreprise libérée ou toutes ces choses qu'on parle, ça ne sert à rien si le dirigeant n'est pas aligné avec la mentalité ou les propriétaires de l'entreprise. Et dans ton cas, toi, créé et géré par une femme, c'est ce qu'on veut chez Synapse. Notre mission, c'est ça, c'est d'équilibrer les deux ailes de l'humanité. On veut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui suivent ton chemin très inspirant. Et du coup, pour closer, tu peux peut-être donner un petit peu les mots de la fin. Quel message tu as envie de donner au monde? Quel message tu as envie de donner à ces jeunes ou moins jeunes qui nous écoutent et qui, certains d'entre eux, sont dans le chemin de l'entrepreneuriat déjà et parfois sont dans une crise et en attendant la prochaine victoire, ou alors ils sont encore en train de commencer à se lancer? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous?
Moi, je peux que témoigner de la beauté de ce parcours, avec tous les moments lumineux et puis les quelques moments sombres, le final, c'est, voilà, je trouve que c'est juste extraordinaire. Et plus ça va, plus tu avances et plus les choses s'éclairent. Mmh. Et c'est pas une sortie de tunnel, c'est au contraire quelque chose de très, voilà, c'est très lumineux, je pense. Après, je regarde, j'ai deux filles, 15 et 17, et c'est compliqué parce que, par exemple, si je devais leur dire, elles voient que j'aime mon métier, elles voient que, en plus, bon, moi, j'aime la matière que je travaille, qui est l'environnement, le physique, tout ça, j'adore ça. Donc, je suis plutôt passionnée. En même temps, elles me voient souvent beaucoup travailler. Et donc, c'est pas facile pour elles de se positionner par rapport à ça. Donc, j'ai du mal à donner un conseil à des jeunes. Je me souviens quand j'ai donné quelques cours à des écoles de commerce, et je parlais d'audace. Et c'est un peu pareil, enfoncer des portes ouvertes. Mais je crois que c'est vraiment ça. En fait, il faut écouter son cœur, vraiment. Si on a envie, on écoute son cœur, on se pose la question, on a la réponse. De toute façon, un truc très simple, c'est un guide avec mon associé. Un doute, pas de doute, on close le truc. Si on a un doute, c'est que ce n'est pas bon. Par contre, quand on se pose la question et que ça fait vibrer quelque chose, bah là, il ne faut non plus pas avoir de peur, il faut y aller. Parce que c'est vraiment en marchant que les choses, elles se font. Donc, il faut interroger son... et s'écouter. Et ensuite, s'écouter, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, bien sûr que tout va revenir et dire « Ah ben non, mais oui, mais attention, regarde si tu fais ça, mais si tu ne fais pas ça. Et puis, si tu le fais comme ça, ça ne va pas aller. » En fait, depuis tout petit, notre système de valeurs et les normatifs dans lesquels on est nous contraint à ne pas aller vers une forme de liberté. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une magnifique forme de liberté, avec tout ce que ça a comme... C'est-à-dire que je reprends encore aussi... ce sera peut-être, d'ailleurs, l'image de fin. Fred me disait, quand j'ai commencé en 2012, il me disait, tu sais, Nathalie, l'entrepreneuriat, c'est comme être dans une falaise en train de faire de l'escalade. Il y a un moment donné, il faut que tu lâches toutes les prises, parce que sinon, tu n'avances pas. Donc, il faut vraiment lâcher les prises. C'est vrai qu'on est en équilibre et il ne faut pas avoir peur de tomber. Donc, il y a un moment où hop, on grimpe. Mais il y a ces moments très, très légers, pas longtemps. Il ne faut pas tout lâcher parce que là, on tombe. Mais il y a des moments où il faut lâcher. Il faut lâcher celle-ci et celle-ci pour attraper l'autre. Il faut s'élancer un peu pour attraper l'autre. Donc, il faut lâcher certaines choses et prendre... ce qu'on appelle communément un risque, mais moi, je vais prendre une liberté.
Oh, merci, Nathalie. Ça fait vibrer ces moments, cette métaphore de l'escalade, de lâcher, parce qu'on le vit nous aussi. Et on a écouté notre cœur chez Synapse en t'invitant, en te choisissant. Et toi, tu as écouté ton cœur en répondant à cette invitation. J'espère que nos auditeurs ont tous apprécié et qu'ils vont partir aussi en écoutant leur cœur. Merci, Nathalie.
Merci beaucoup.
Ce podcast vous a inspiré ? Êtes-vous aussi à la recherche de plus d'épanouissement dans votre vie, mais vous vous sentez submergé et abattu? Voulez-vous aussi réveiller la meilleure version de vous-même qui sommeille en vous? Vous êtes au bon endroit. Power of Synapse est notre programme révolutionnaire qui vous aidera à achever vos objectifs, éliminer vos croyances limitantes et créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Dites au revoir à la morosité pour toujours. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur mysynapse.eu/power. Je répète, mysynapse.eu/power. Le petit plus, si vous écoutez ce podcast et que vous souhaitez changer maintenant, vous pouvez bénéficier d'une remise de 15% en entrant notre code BECOME15 sur notre site internet mysynapse.eu/power. Nous avons hâte de vous y retrouver. Et aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous suivre, nous laisser un avis et nous dire les sujets que vous souhaiteriez voir traités ici prochainement. À bientôt !